Bonne célébration à chacune et à chacun.
Bonjour à tous et bienvenue à l'EPI. On veut adorer l'admirable ce matin. On l'appela admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et c'est celui-là qu'on veut adorer ce matin. Voici le jour que l'Éternel a fait. Il a fait ce jour et nous le bénissons parce que nous avons encore le souffle de vie ce matin. Et celui-là, Dieu puissant, celui qui nous donne le souffle de vie, on veut adorer.
Que tout vient de toi.
tous ensemble en Christ seul.
En Christ seul est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre.
Proclamez-le ce matin, Jésus-Christ notre rocher.
Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage.
Quand tout faiblit
autour de moi, sa présence soutient ma foi. Tu es notre rocher. Créateur du monde, il est Seigneur des saints, roi des cieux, digne pour toujours. Son royaume surpasse toute puissance, tout être sur terre, sa grâce telle.
Rappeler qu'il est notre secours, que dans les tracas de la vie, les aléas de la vie, les tempêtes de la vie, il est là. Il est là, il se tient auprès de nous. Ne l'oublions pas ce matin qu'il est notre secours.
Toi seul est ma force. toi. Oui, je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi.
Nous arrivons à un moment central de ce temps de célébration, un moment de mémoire où nous nous souvenons les uns et les autres de ce que Christ a fait pour chacun d'entre nous. C'est bon de marquer une pause dans les turbulences que nous connaissons et nous entrons actuellement dans une phase de difficulté. Les solitudes remontent, les souffrances sont là, et c'est tellement bon de se recentrer sur l'essentiel, sur ce que Christ a fait pour chacun d'entre nous. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, par son sacrifice, et qui a fait de nous un peuple de rois, de prêtres pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance pour l'éternité. Amen. Nous te bénissons ensemble, Seigneur, pour le sacrifice de Golgotha. D'un moment de mémoire, temps de pause, nous entrons nous-mêmes et nous te disons toute notre reconnaissance pour ce que tu as accompli à la croix. Merci, parce que tu es le Sauveur du monde, mais tu es mon Sauveur, notre Sauveur. Merci pour ton sacrifice qui nous a pardonné tous nos péchés et qui nous a délivrés et qui nous a introduits dans un royaume de lumière, de paix, de joie. À toi, Seigneur, toute notre reconnaissance pour ce pain, pour ce vin qui circule et qui représente la mort de Jésus-Christ pour nous. Amen. Nous pouvons prendre les éléments au fur et à mesure qu'ils passent.
Jamais la terre te laisser nos fardeaux là à ses pieds, et par sa grâce être pardonné, et avec joie chanter. Voici le prince des cieux, les anges proclament sa venue, car l'enfant en mailloté, Dieu fait chair pour nous sauver. Oh, le royaume et la puissance sont à lui pour toujours.
Est-ce que la paix peut résonner avec de la joie? On va le voir tout de suite. Si quelqu'un est dans la paix du Seigneur, mais à la joie du Seigneur, est-ce qu'il peut l'acclamer ce matin et lui donner toute la gloire? À lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je me suis dit, là, à l'instant T, qu'on pouvait pas finir comme ça. Est-ce qu'on pourrait juste reprendre juste le cœur en a cappella piano, juste l'église qui adore Dieu, juste là? Et pour celles et ceux qui ont encore un tout petit peu, une dernière petite force pour être présents debout devant le Seigneur et de dire, Seigneur, ce chant-là, cette prière, elle est pour toi. Qu'on puisse juste le prendre et que vous, Église, ce matin, vous êtes la chorale du Seigneur. C'est vous la chorale du Seigneur. Les anges sont en train de célébrer Dieu dans les lieux célestes et nous, l'Église ici, nous célébrons Dieu à la Méno à Strasbourg en 2024. Est-ce que je peux entendre un grand amen à ça?
Amen.
Amen. Alors on va faire cette prière en chantant. Et là, toute la gloire encore et encore va revenir à Dieu.
Voici le prince des cieux, les anges proclament sa venue, car l'enfant emmailloté, Dieu fait chair pour nous sauver. Oh, le royaume et la puissance sont à lui pour toujours. Prince des cieux, Christ est l'espoir du monde.
Et maintenant, c'est à vous, Église, ce matin. Oh, allez-y, Église.
Voici le
Seigneur, nous sommes réunis ce matin pour toi. Tu es la raison de notre présence. Tu as dit, quand je serai élevé à la croix, j'attirerai hommes et femmes à moi. Nous sommes attirés par ta présence dans ce lieu ce matin, par ton appel, par l'évangile. Tu as dit, là où deux ou trois sont assemblés, là où deux ou trois cherchent mon nom, ils me trouvent. Et ce matin, nous trouvons ta présence. Et nous te prions ce matin pour des rendez-vous divins dans chacune de nos vies. Nous ne sommes pas là, Seigneur, juste pour être là. Nous sommes là parce que nous croyons que là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la présence de Dieu, là est la liberté. Notre Dieu est le prince de la paix. Notre Dieu est le prince qui offre la liberté à celui ou celle qui croit en lui, qui crie à lui, qui fait appel à son nom ce matin. Alors nous voulons en tant qu'église ce matin te dire que ce temps de rassemblement, c'est un temps de victoire pour le nom de Jésus-Christ. C'est un temps de paix pour celles et ceux qui en ont besoin. Oui, nous voulons une dernière fois, Seigneur, te dire à toi toute la gloire. Amen. Est-ce qu'on peut encore applaudir Jésus dans ce lieu ? Il le mérite, il le mérite, il le mérite pour tout ce qu'il a accompli, il le mérite. Et en vous asseyant ce matin, donnez un petit coup de Guten Morgen, un petit coup de bonjour comme ça, en alsacien, aux personnes à côté que vous n'avez pas encore vues. Vous pouvez le saluer. C'est beau de voir les entiers qui disent Guten Morgen. Bienvenue à l'église de l'Épi ce matin, une église protestante évangélique internationale, parce que plusieurs nationalités, plusieurs cultures se rassemblent pour le nom de Jésus. Et c'est une grande joie de pouvoir célébrer ensemble ce premier dimanche de décembre. Et pour nous, c'est pas n'importe quel dimanche. Et on prie vraiment pour que tout ce mois soit un mois où vous allez pouvoir découvrir, redécouvrir le Christ au travers de toute la vie d'Église. L'Église de l'Épi, c'est des temps de célébration, de rassemblement. Mais il y a peut-être une personne à votre droite ou à votre gauche qui est une personne impliquée en Église. Une personne qui est peut-être dans un groupe de vie, un groupe de maison. Une personne qui peut-être, cette semaine, est venue pour faire le ménage, pour nettoyer la chaise sur laquelle vous vous êtes assis. L'Église de l'Épi, ce sont des personnes aussi qui sont engagées, comme on l'a dit, en début de célébration, dans une association qui s'appelle Enjeu et qui vient en aide non seulement aux plus démunis, mais qui essaye de développer tout un ensemble d'actions pour les familles, enfants, ados, jeunes, les aînés aussi. D'ailleurs, à Enjeu, dans mon top 3, il y a la sortie des aînés. C'est toujours incroyable et magnifique. Et je les remercie de m'accueillir au milieu d'eux, même si je ne suis pas encore à l'âge de cette sagesse-là. Donc, l'église de l'Épi, c'est tout ça. Et rien ne serait possible s'il n'y avait pas aussi une solidarité. Alors je veux prendre le temps, au nom de tout le conseil d'église, ici à l'Épi, nous travaillons, nous aimons travailler en équipe, nous aimons travailler les uns avec les autres. Il y a un conseil d'administration qui est chargé de gérer au mieux les biens de l'église, les finances de l'église. Il y a aussi un conseil spirituel, une équipe pastorale dont le cœur et la mission est d'accompagner de manière pastorale tous les besoins, le développement de la vie de l'église. Et il y a 35 à 40 services à chaque semaine qui servent Dieu et leur prochain. Et ce ne serait pas possible de nourrir ces services, d'accompagner ces services dans la croissance sans la générosité de chacune et chacun d'entre vous. Alors au nom du conseil d'église, et je vais ralentir un peu parce que je vois que mes traducteurs m'aiment, mais ils me disent « Mathieu, tu parles beaucoup trop vite, ralentis ». Alors je ralentis. Au nom de tout le conseil d'église, nous voudrions vous remercier pour votre générosité. Chaque don que vous faites à l'église permet à des services de continuer d'exister, de fonctionner. Il y a deux moyens de pouvoir soutenir l'église financièrement. On aimerait aussi vous les rappeler ce matin. Autant on dit merci, autant peut-être vous avez à cœur de soutenir l'église locale. Vous avez à la sortie de cette salle deux troncs dans lesquels vous pouvez déposer vos chèques, des dons. Il y a aussi des RIB pour celles et ceux qui sont plus à l'aise avec un virement ponctuel ou quoi. Il y a aussi notre site internet où vous pouvez nous soutenir. Il y a le petit onglet soutenir. Vous allez dessus, vous avez toutes les informations. C'est des moyens sécurisés de pouvoir nous soutenir. Alors un grand merci pour cela. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est un jour particulier. Depuis maintenant un an, nous offrons et nous proposons ce qu'on a appelé un marché de Noël où l'Épi fait son marché. C'est un temps important pour nous, un temps fort pour nous, parce que c'est l'occasion de pouvoir se mettre en partenariat avec notre association culturelle Enjeu, l'Église de l'Épi, qui est une association culturelle, et aussi la CLC. Depuis des années, la CLC est venue permettre de pouvoir avoir un large panel de calendriers à offrir à vos proches, aux voisins ou autres. Et on est très heureux de pouvoir les accueillir encore ce matin. Qui connaît la CLC ? Levez la main. La librairie chrétienne de Strasbourg. Pour tous les autres, je vous encourage à pouvoir vous rendre au stand pour découvrir ce ministère. On est heureux, nous, Église, d'être en partenariat avec une librairie chrétienne, avec une présence chrétienne sur Strasbourg. Et chacun dans ses missions, mais ensemble pour le royaume de Dieu. Donc n'hésitez pas à découvrir la CLC dans un instant. Ils ont vraiment de beaux calendriers à pouvoir vous proposer à la vente. Et il y a aussi Enjeu. Enjeu va offrir plusieurs moyens d'offrir des cadeaux. Vous avez des couronnes de l'Avent, mais moi, j'ai pas à rougir, je suis allé au marché de Noël de Colmar, nos couronnes de l'Avent sont plus belles. Hein. Je tenais juste à le dire comme ça. Voilà, comme ça c'est fait. Oui, je suis pas objectif, oui. Pas de souci. Mais couronne de l'Avent, des bredelets, il y aura une vente aussi de gâteaux, il y aura du vin chaud, il y aura du jus de pomme. Et tous les bénéfices de ces ventes concernant Enjeu iront soutenir les actions d'Enjeu. Enjeu est engagé dans l'humanitaire pour soutenir des projets dans l'humanitaire au travers du monde. Enjeu, c'est aussi la solidarité de pouvoir soutenir par le biais des colis alimentaires. Il y a aussi tout un service auprès des personnes de la rue qui sont là. Il y a aussi des camps d'ados, de jeunes. Enfin, il y a plusieurs moyens de soutenir et tous les bénéfices de ce marché Noël iront soutenir Enjeu et les enfants. Alors je vous encourage à la fin de cette célébration à pouvoir profiter de ce marché qui ouvrira. Et cette année, on innove un peu. On a centralisé une billetterie comme ça se fait dans n'importe quel village quand il y a un marché de Noël. Il y a un endroit, une billetterie, vous pourrez venir chercher vos billets pour acheter les gâteaux, les boissons, les bredelets, les couronnes ou autres. Et vous pourrez, vous aurez, vous payez, vous aurez un ticket, vous pourrez vous rendre au stand pour récupérer ce que vous avez commandé. C'est plus facile pour tout le monde, ça circulera mieux. Il y a deux espaces dans le marché Noël. On est habitué depuis maintenant un an que maintenant le fond de cette salle est utilisé pour les activités aussi de l'église. Donc au fond de cette salle, vous avez les aiguilles solidaires. Donc c'est des objets faits main. Donc vous avez un espace important ici, allez-y. Vous allez trouver des pépites et vous avez le hall d'accueil. Et la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on s'est équipé pour que vous puissiez payer aussi en carte bancaire si jamais. Faites grâce aux vendeurs. Nous, on n'est pas des professionnels, on est là pour juste servir la cause du royaume de Dieu, mais on essaye de le faire bien. Ok ? C'était pour voir si vous dormiez un peu. Je vous souhaite une bonne célébration. On va maintenant entrer dans notre série qui va nous accompagner tout ce mois de décembre. Vraiment, que Dieu vous bénisse.
Voilà, bonjour à tous. Très heureux d'être avec vous ce matin pour parler d'une période qui m'excite particulièrement, c'est la période de Noël. Je suis un fou de Noël, j'aime ça. Et vraiment, je suis heureux de pouvoir démarrer cette thématique qu'on a voulu sur le thème de l'Avent avec l'équipe pastorale. Alors, je sais que moi, je peux être excité par la période de l'Avent, mais je sais que tout le monde vit pas cette période de la même manière. Qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on entend parler de Noël, de l'Avent ? Alors, il y a plusieurs personnes au milieu de nous. Y aller stressé. Qu'est-ce que je vais préparer pour le réveillon du 24 et du 25? Est-ce que les invités, ils vont aimer ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il faut que je mette? Est-ce qu'on prend une bûche glacée? Est-ce qu'on prend une bûche en crème? On est stressé. Il y a toutes sortes d'émotions qui sont là. Peut-être pour d'autres, c'est l'angoisse. Comment le réveillon va encore se dérouler? J'espère que tonton ne va pas parler de politique. Ça, c'est les angoissés. Ensuite, il y a l'horreur. L'horreur. Quand est-ce que je vais pouvoir aller faire les achats ? Mon patron me laisse partir de plus en plus tard du travail sans aucune augmentation. Et puis, j'ai pas le temps d'aller faire les courses. Et puis, il va y avoir plein de monde. Je vais être obligé d'y aller samedi. Ça va être la queue sur le parking de l'hypermarché. J'allais dire une marque. Sur le parking de l'hypermarché, ça va être la folie. C'est l'horreur. Je déteste cette période. Ensuite, pour d'autres, c'est peut-être la douleur. C'est de se dire, j'ai perdu quelqu'un cette année, puis il y a des réveillons que j'ai vécus, je ne les revivrai plus jamais, de cette manière-là. C'est une nouvelle saison, et puis ça vient faire remonter toutes sortes de souvenirs dans nos cœurs, et on se dit, mais Noël ne sera plus jamais comme avant. Il y a aussi la joie, pour certains, commence à faire froid, je ne sais pas vous, mais hier, là, j'étais sur le marché de Noël à Colmar, et ça commençait à cailler. Et puis, il y a du brouillard, il fait noir. Et là, il y a les lumières scintillantes qui viennent apporter un peu de joie dans notre cœur lorsqu'on voit toutes ces lumières qui viennent casser le froid de l'hiver. Et puis ensuite, il y a ceux qui disent « c'est chouette ». Et là, je parle pour ma paroisse. Je vais enfin pouvoir boire le meilleur vin chaud d'Alsace qui se situe 6 places des Montagnes Noires à Colmar. Je ne peux pas vous en dire plus. Avec un pain d'épices au miel, et c'est fou. Alors, j'ai appris ce matin que Michel avait préparé du vin chaud et je pense que celui de Michel va être meilleur. Amen. Yes. D'une personne à une autre, on ne va pas vivre les mêmes émotions lors de cette période. Cette période de l'Avent, elle est également associée à des objets. Alors, bien sûr, il y en a plusieurs ici. Comme la couronne, alors je sais que ça ne se voit pas très bien, mais nous avons allumé la première bougie, puisque c'est dans la tradition, mais je ne veux pas spoiler, parce que Magali va aborder ça lors du dimanche 22 décembre, qui sera une célébration pour toute la famille, où elle va pouvoir communiquer sur le sens de cette couronne. Et donc il y a plusieurs objets associés. Et puis il y a le fameux calendrier de l'Avent. Vous savez, je suis un éternel gamin. Et après 17 ans de mariage, je réclame toujours à ma femme mon calendrier avec une vache qui est violette et blanche. Ça parle à quelqu'un ? Ça parle à quelqu'un, violette et blanche ? Si vous savez pas où c'est, à deux arrêts de tram, il y a l'usine qui fabrique ces calendriers de l'Avent. Deux arrêts de tram. Alors mes amis, vous savez, je suis encore à peu près raisonnable, ça vaut que dans les 5 euros. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le calendrier se décline aujourd'hui sous plusieurs formes. Alors je vais être obligé de citer plusieurs marques, Lego, Playmobil, cosmétiques en tout genre, et même l'heure de pêche. Vous savez que je suis un grand pêcheur, qui a besoin de la grâce de Jésus, mais un pêcheur de poissons. C'est une passion pour moi et une de mes marques préférées, elle est scandinave, et elle vend en ce moment un calendrier de l'Avent à 219 euros. 219 euros, c'est quand même chaud, non ? Vous imaginez que c'est un calendrier pour nous faire attendre le cadeau de Noël. Donc si on m'offre un cadeau à 219 euros pour attendre le cadeau de Noël, imaginez le prix du calendrier de l'Avent. Mais j'en ai vu un pire. J'ai vu un calendrier de l'Avent de joaillerie et d'art de table à 101 000 euros. 101 000 euros. Imaginez-vous le prix du cadeau de Noël derrière. Ma question c'est, est-ce que c'est vraiment ça le sens de l'Avent ? Alors j'ai déjà entendu des noms, là, il y a des gens tweetent, bah non, c'est pas ça. Est-ce vraiment ça le sens de Noël ? Toutes ces dépenses, tout ce consumérisme, n'y a-t-il pas originellement un message différent porté par cette période de l'Avent ? Et c'est ce qu'on va découvrir tout au long de cette série. Aujourd'hui, nous allons parler, comme on l'a vu dans ce titre, les trois attentes qui se cachent derrière la période de l'Avent. Jérôme, dans une semaine, décryptera le cri et l'appel que la période de l'Avent nous lance. Matthieu, le 15, nous parlera de la prière que la période de l'Avent suggère. Et enfin, comme on l'a dit tout à l'heure, Magali clôturera avec la signification spirituelle derrière la couronne de l'Avent et ses bougies. Notre désir, c'est qu'au-delà de la frénésie, de la course et de toutes les émotions que ça peut générer en nous, nous puissions nous réapproprier ensemble cette période qui se veut être un temps de préparation intérieure à la venue de notre Sauveur. Un temps de préparation intérieure. Tish Harrison Warren, qui a écrit un ouvrage « Vivre le temps de l'Avent, célébrer l'espérance » que vous pourrez vous procurer les prochaines semaines sur dans le hall librairie, au stand librairie, avec d'autres ouvrages qui seront là pour nourrir votre foi dans cette période. Elle dit la chose suivante. « Les premiers calendriers furent créés par des luthériens allemands au début du XXe siècle pour faire le décompte des jours avant Noël. Dans les années 1930, l'imprimerie Sankt Johannis commence à produire des calendriers religieux de l'Avent avec des versets bibliques relatant l'histoire de Noël. L'objectif derrière ces calendriers de l'Avent était de nourrir la foi des disciples de Jésus, de les nourrir dans l'espérance que leur Sauveur était venu et qu'il va revenir. Elle était là pour les encourager. C'est d'ailleurs ce que signifie le mot « avant », ça vient du latin « adventus ». Qui parle de ce temps où on prépare la venue de Christ, où on est en train de proclamer « il arrive, notre Sauveur arrive ». Ça parle de ce temps de préparation où on l'attend avec impatience. Jérôme développera l'aspect de cette préparation. Nous, ce matin, on va vraiment s'attarder sur les attentes qui sont associées à cette période. Quelles sont donc ces attentes qui reviennent chaque année à cette période? Qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui? On va voir qu'elle se caractérise et décline en trois attentes. On va aller pour ça dans un texte ce matin du prophète Michée qui va décrire l'attente que le peuple juif avait plus de 700 ans avant la venue de Jésus. Et voir que ce texte, il a encore des choses à nous communiquer pour nous aujourd'hui. Pour rappel, un prophète, c'était un porte-parole de Dieu. C'était quelqu'un qui parlait de la part de Dieu. Sa mission, c'était d'inviter le peuple, d'interpeller les gens à considérer la présence de Dieu dans leur vie et de le mettre au centre de leurs choix et de leurs décisions au quotidien. Voici la première attente rattachée à cette période, et c'est mon premier point ce matin, une attente passée, la venue du Sauveur. Une attente passée, la venue du Sauveur. On commence la lecture, versets 1 et 2. « Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. C'est pourquoi il livrera son peuple jusqu'au moment où accouchera celle qui doit accoucher et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. » Plus de 700 ans avant la venue du Sauveur, d'un Sauveur et d'un Libérateur, le prophète Michée décrit avec précision d'où allait venir cet homme providentiel. Et il parle de la ville de Bethléem. La ville de Bethléem. Et c'est pas anodin. Pourquoi ? Parce que Bethléem faisait écho aux heures de gloire d'Israël, celles de l'ère de son grand roi David, celui qui était appelé l'homme selon le cœur de Dieu, qui avait été choisi pour être le roi et conduire la nation parce qu'il avait fait de Dieu sa priorité. Non pas qu'il n'y a eu pas quelques erreurs de parcours, mais à chaque fois David avait ce cœur et ce retour sincère envers son Dieu. Dieu avait promis à David qu'il y aurait toujours un successeur, un descendant de sa lignée sur le trône. Mais la référence de la ville de Bethléem, ville natale de David, fait écho au David qui faisait paître les troupeaux de la famille, au David qui était berger. Et ça démontre que le nouveau David que Dieu appelle est quelqu'un qui va prendre soin de son peuple, comme un berger qui va le conduire, qui va panser les blessures de son peuple, qui va les nourrir et surtout les conduire et les diriger. Il ne vient pas de Jérusalem, la ville des rois. Vous savez, cette ville où, par hérédité, tout simplement, on devient roi parce que papa était roi. Oui, Dieu honore sa promesse en amenant un fils de David sur le trône, mais il le fait pas à l'endroit de l'hérédité Jérusalem, mais à l'endroit de l'appel Bethléem, à l'endroit où il a appelé David à être un berger, à prendre soin. La ville des petits commencements, cette ville où David a été choisi par Dieu. Mes amis, avant d'avoir une hérédité, c'est Dieu qui choisit et qui établit son sauveur. De la même manière que c'est Dieu qui choisit et établit son peuple. Si nous sommes là ce matin, ce n'est pas parce que nous avons choisi Jésus, c'est parce qu'il nous a choisi le premier. Parce qu'il a posé ses regards sur chacun d'entre nous, parce qu'il nous aimait. Bethléem, petite ville parmi les villes de Juda. C'était une communauté insignifiante. Elle ne figure même pas dans le listing des villes principales d'Israël dans l'Ancien Testament. Elle ne fait même pas partie de ces grandes villes-là. La venue du Sauveur ne s'est pas faite dans la féerie et les odeurs de cannelle de nos marchés de Noël alsaciens. Elle s'est faite dans un contexte, dans un moment où le peuple de Dieu aspirait à une libération. Ils aspiraient à une libération de leurs souffrances. C'était dans un contexte d'attente et de soupir. Bien après les heures de gloire du règne de David, le peuple vivait les conséquences de son rejet de Dieu. Ils avaient mis Dieu de côté. Ils recherchaient la prospérité auprès d'idoles. Ils donnaient des sacrifices à des dieux qui étaient ceux des autres nations pour obtenir la richesse, pour obtenir la force, l'argent, la réussite, etc. Prêt même à sacrifier parfois des enfants. Il recherchait également la protection des armées des nations environnantes, les cavaliers de l'Égypte, etc. Il cherchait une sécurité. Il ne pratiquait plus la justice en faveur des pauvres, préférant les pots de vin des riches. Il préférait acheter un faux procès pour obtenir quelque chose pour eux, au détriment de ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Voilà le contexte du peuple. Et suite à ça, ils se sont retrouvés sous plusieurs dominations, allant de l'Assyrie pour le royaume du Nord, Israël, en 722 avant Jésus-Christ, puis Babylone en 586 pour Juda, jusqu'à l'Empire romain au moment où le Sauveur s'incarne et vient sur terre dans la personne de Jésus. Ils ont enchaîné toutes sortes de dominations. Le théologien français Sylvain Romerovski explique en parlant de Bethléem Ephrata qu'il rappelle ici que la venue du roi sera précédée des douleurs de l'enfantement, du jugement et de l'exil. En effet, notre texte nous dit que Dieu a livré le peuple, que Dieu a abandonné le peuple durant cette période. Et tout cela à cause de trois manquements des royaumes d'Israël. Ils ont d'abord rejeté l'alliance que Dieu a fait avec eux, lorsqu'il les a appelés, ils ont rejeté ses commandements et comme on l'a entendu tout à l'heure dans une prière, d'aimer Dieu mais d'aimer aussi son prochain comme soi-même. Et ils ont rejeté le conseil de Dieu, celui qui voulait les conduire comme un berger, qui voulait les amener dans les bons pâturages. Ils n'ont plus voulu de ce conseil de Dieu. Et je dirais à quelqu'un ce matin qui est peut-être là pour une première fois, qui dit « mais Dieu, il n'est pas là dans l'affaire ». Vous savez, c'est notre monde qui avons mis Dieu de côté. Et puis après, on lui reproche de ne pas agir. Mais c'est nous qui avons décidé de ne plus vouloir de lui dans notre vie. Mais on a un Dieu qui veut agir. On a un Dieu qui veut nous rejoindre encore aujourd'hui. Amen. Malgré les avertissements
que Dieu a lancé par la bouche des prophètes, des conséquences qui allaient se passer s'ils rejetaient Dieu de leur vie, ils n'en ont fait qu'à leur tête. Ils se sont rebellés, puis ils se sont gavés de promesses de faux prophètes qui leur promettaient la prospérité, la réussite, la richesse, pour pouvoir continuer de mener des vies égoïstes, centrées sur eux, centrées sur leur succès, négligeant les pauvres et les sans-défense de la société. Je suis fier de faire partie d'une église qui, au travers de son association culturelle, œuvre pour rendre de la dignité et de l'espérance à des gens qui n'ont plus d'espoir. Amen. Il y a d'autres personnes au milieu ce matin qui sont fiers. Alors, tout n'est pas parfait, mais on y travaille fort. Amen. On travaille ensemble, comme Mathieu l'a dit, on est une équipe. Nous sommes tous une équipe. Travaillons ensemble. Mes amis, c'est au cœur d'un temps de douleur que Dieu va promettre une libération venant de Bethléem, en déclarant, je cite, « De toi sortira pour moi ». Cette phrase « De toi sortira pour moi » est en train de dire que celui qui va venir va accomplir parfaitement le plan et la volonté de Dieu pour faire revenir le peuple à Dieu. Et cette personne n'est pas n'importe qui. C'est celui, le texte nous dit, dont les origines remontent aux temps anciens, à l'éternité. Alors j'ai vérifié cette info avec Evelyne, on en a parlé jeudi, mais certains théologiens avancent que le terme « Kedem » qui est employé ici peut faire référence à une origine qui remonte à Dieu lui-même, à ses desseins ou à ses déclarations. Il ne s'agit pas ici d'un simple homme, mais il s'agit de la venue de Dieu lui-même pour faire et accomplir ce que nous sommes incapables de faire par nous-mêmes. C'est Dieu qui a fait ce pas. Et j'ai envie de faire une petite parenthèse géopolitique ce matin. Bien que ce soit le discours ambiant, comme cela l'a été pour le peuple d'Israël qui cherchait des alliances à cette époque-là pour faire face à ces empires qui arrivaient, qui cherchaient à trouver du secours dans les cavaliers, dans la force armée de ceux qui les entouraient, notre salut ou notre délivrance ultime ne se trouve pas dans une armée, ça ne se trouve pas dans une arme de dissuasion, mais ça se trouve dans le Dieu de la provision. Notre sécurité, elle n'est pas dans une arme de dissuasion, mes amis. Elle est dans le Dieu de la provision, qui a promis de prendre soin de son peuple, de nous garder et de nous accompagner. Mes amis, ma prière ce matin, c'est que dans cette période de l'Avent, nous approcher de Dieu soit notre premier réflexe et non notre dernier secours. Que Jésus soit notre premier réflexe. Non pas qu'il ne va pas utiliser des moyens terrestres pour nous bénir, mais que notre réflexe en tant que disciple de Jésus, lorsqu'on fait face à de la pression, à de l'oppression, à toutes sortes de situations qui viennent nous envahir, c'est de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. » Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais nous pouvons connecter encore avec le ciel ce matin. Il est disponible, le ciel est ouvert. Il y avait au milieu de ce peuple qui avait rejeté son Dieu un reste fidèle. Un reste fidèle de juifs pieux qui aimaient Dieu et qui souffraient de la situation du moment dans ce temps d'attente, alors qu'ils vivaient la pression, les dominations, les oppressions étrangères. Et le message du prophète qui leur était adressé à ce moment-là, c'était de garder espoir, car Dieu avait un plan futur pour les sauver et pour les restaurer. Du ciel viendrait un sauveur. Le peuple avait besoin d'être encouragé. Et nous aussi, parfois, on vit des temps de bataille, de lutte, de questions, d'incompréhension. Il y a toutes sortes de choses qui viennent sur nous. Puis parfois, on a juste envie de baisser les bras et de dire « À quoi ça sert tout ça ? À quoi ça sert de louer Jésus, de venir dans cette salle ? Oui, c'est beau, les chants, on chante, etc. Mais qu'est-ce que ça change concrètement dans ma vie ? Parfois, on a l'impression que le ciel est fermé, que la Wi-Fi elle est coupée, qu'il n'y a plus rien qui passe. À quoi bon continuer de louer Dieu alors qu'il y a tant de problèmes qui arrivent ? On sert Dieu, on l'aime, mais la vie n'est pas comme on le souhaiterait, pas plus facile et parfois même le contraire. Vous savez que dans le monde, nous ce matin, on est là bien au chaud, mais il y a des chrétiens qui, à cause du nom de Jésus, sont enfermés dans des containers parce qu'ils ont décidé de suivre Jésus. La vie chrétienne n'est pas une promesse de vie sans problème. Elle est la promesse du Dieu avec nous, Emmanuel, comme on l'a chanté. Amen. T.H. Harrison dira la chose suivante, l'incarnation du Fils de Dieu n'a pas pris place au sein d'une fête sentimentale et superficielle. Et quand je dis cette citation, je ne suis pas en train de critiquer l'ambiance que j'aime bien, ce que je vous disais tout à l'heure. Mais le Fils de Dieu n'a pas pris place dans un moment où il y a un petit morceau de piano tout cool, vous savez, où on est trop bien. Non, elle est venue dans la misère, quand les gens étaient sans espérance. Je veux dire à quelqu'un ce matin qui traverse une saison de galère, peut-être une saison de tristesse, une saison d'angoisse, qu'il y a de l'espoir. Dieu ne t'a pas abandonné. Il voit ta tristesse, il voit ta misère. Il y a un sauveur qui est venu dans ce monde il y a 2000 ans, dans un temps de souffrance peut-être comme le tien en ce moment, pour te rejoindre aujourd'hui. Et que là où tu es, peu importe, même si tout te semble sombre, noir, bien loin de la sophistication, de toutes les lumières qu'on a dans notre ville en ce moment, il y a de l'espoir pour toi. Dieu ne t'a pas abandonné. Michée souligne qu'il va y avoir une saison de douleur jusqu'à ce que la mère du Sauveur soit enceinte. Et il reprend la description de son contemporain, Ésaïe. Ils ont vécu à peu près dans les mêmes périodes. Et Ésaïe décrit la venue de ce Sauveur. Il décrit la venue d'un Messie au travers d'une vierge enceinte. Qu'est-ce que c'est beau cette histoire! On se croirait dans un téléfilm de Noël l'après-midi, vous savez, quand on fait le repassage. C'est tout beau. La neige se met à tomber au moment où la jeune femme qui avait quitté sa région natale, prise par le travail, revient, rencontre celui, son amour d'enfance qu'elle n'a pas vu depuis 30 ans, quittant au passage son conjoint officiel. Elle l'embrasse et là, la neige se met à tomber. C'est beau, non? Pourtant, c'était moins magique pour quelqu'un ce jour-là. Quelqu'un, il était dans le doute, lui, quand sa future femme lui a dit « Je suis tombée enceinte par l'opération du Saint-Esprit. Mettez-vous à sa place. Est-ce qu'elle m'a trompé? On n'a pas eu de relation sexuelle. » Et elle me dit que Dieu l'a visitée et qu'elle va être enceinte. Imaginez le doute qui peut se mettre dans sa tête, le sentiment de rejet aussi, la trahison. Mes amis, si ma femme arrive un jour, elle me dit qu'elle est enceinte d'un enfant qui ne me ressemble pas, je ne vais pas dire gloire à Dieu dans les cieux. J'aurais besoin, comme Joseph, qu'un ange vienne me visiter pour me dire il y a le plan de Dieu derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Mettez-vous à sa place 5 minutes, les hommes. Sa femme vient et elle dit je suis enceinte. Mais Dieu l'a rassurée. Il a envoyé l'ange et regardez ce que le texte nous dira dans Matthieu 1, 20 à 21. Joseph, descendant de David. N'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Vous savez, on lit tellement ce verset, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Mais Dieu adresse vraiment ce qu'il est en train de vivre dans ses émotions. La peur et la crainte d'être trahi. N'aie pas peur. Car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Dieu est en train de lui dire, un descendant de David arrive et il vient pour nous libérer. Il vient pour nous libérer du péché. Et peut-être que là, quelqu'un va me dire, hey, stop là, il y a un truc que je ne comprends pas là. Tout à l'heure, on parlait du prophète qui annonçait un libérateur qui vient nous libérer de domination autour d'Israël, qui vient rendre la gloire de la nation d'Israël. Et là, l'évangile, en réponse, semble pointer un autre problème qui n'est pas extérieur à Israël, mais qui est intérieur au cœur de l'homme, intérieur à chacun. Est-ce qu'on a un problème? Alors, l'année dernière, je vous avais déjà plus ou moins présenté le phénomène qui prend place ici, mais lorsque Dieu accorde une vision au prophète dans l'Ancien Testament, il lui a donné une vision globale de l'œuvre complète du Sauveur, du Messie, et non pas un programme détaillé avec les petites choses à l'intérieur. C'est d'ailleurs ce que Paul dira dans Éphésiens, il va dire, en les lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a maintenant été révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Dans le commentaire Christ-Centered Exposition sur le livre de Michée, les auteurs disent la chose suivante. Grâce à la révélation du Nouveau Testament et au recul historique, nous comprenons que le mystère du plan de rédemption de Dieu pour le monde cache un plan d'envoi du Messie en 2 avènements distincts. Le Messie viendrait une première fois pour être le sauveur du monde et une seconde fois pour être le roi du monde. Dieu a permis aux prophètes d'entrevoir l'avenir. Mais ils n'avaient pas tout le détail. C'est un petit peu comme si je me mettais en plaine d'Alsace, par exemple à Colmar, et que je regarde la chaîne de montagnes des Vosges. Il y a plein de sommets les uns à côté des autres. Mais depuis la plaine, je suis en incapacité de voir qu'entre les sommets, il y a des vallées et des escarpements. J'ai une vision globale des différents sommets, mais je ne vois pas le détail de ce qui se passe entre les sommets. Les sommeils, ils semblent proches et pourtant, ils sont éloignés. Les prophètes n'avaient aucun moyen de voir les intervalles des temps entre les différentes descriptions de la venue du Messie. Et le premier sommet que le Messie vient atteindre, le premier but, le premier problème à régler, auquel le peuple de Dieu faisait face à cette période et que chacun d'entre nous faisons face encore aujourd'hui, c'est un problème qui n'est pas extérieur à nous, c'est pas les autres le problème. Le problème, c'est moi. Le problème, c'est ce qui se passe dans mon cœur. Jésus expliquera en Matthieu 15, il dit en effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Le mal est essentiellement intérieur à nous depuis qu'on a sorti Dieu de l'équation de nos vies. Et ce, depuis l'aube de l'humanité. Tish Harrison dira encore la chose suivante, à cause de la chute, il y a une fêlure dans nos corps, nos vies intérieures ou nos relations mutuelles. Et la nature, la culture et la société en subissent les conséquences. Nos désirs sont devenus anarchiques et contradictoires et nous sommes en conflit les uns avec les autres et avec Dieu lui-même. En conflit les uns avec les autres et avec Dieu lui-même. Mais la bonne nouvelle, mes amis, c'est que celui qui a fait le premier pas pour venir vers nous. C'est Dieu qui a fait le premier pas pour venir vers nous. Parce qu'il nous aime malgré nos erreurs, malgré nos imperfections. Nous avons cette capacité, ce pouvoir de revenir à lui parce qu'il a payé la dette de nos péchés et de nos manquements. Nous pouvons expérimenter ce matin encore la liberté dans nos cœurs, c'est-à-dire le siège de nos pensées. Lorsque la Bible parle du cœur, elle ne parle pas de la pompe cardiaque, mais elle parle du siège de nos motivations, de nos actions et de nos décisions. Voilà pourquoi une grande majorité du peuple d'Israël n'a pas compris ce qui se passait lors de la première venue de Jésus. Parce que eux, ils ne voulaient pas voir les causes, traiter les causes de leurs problèmes. Ils voulaient juste se débarrasser des conséquences de leurs problèmes. Ils ne voulaient pas traiter à la cause, aux problèmes profonds. Ils voulaient un sauveur, mais ils ne voulaient pas d'un Seigneur. Ils ne voulaient pas de quelqu'un qui les conduit, quelqu'un qui les dirige, quelqu'un qui les accompagne. La réalité, c'est que comme eux, nous sommes confrontés à ce choix. Nous avons besoin de quelqu'un qui amène la lumière dans les coins les plus ténébreux, les plus sombres de nos vies. Et on pense tous à des choses dans nos têtes. Il y a des coins sombres dans nos cœurs et dans nos vies. Cette période de l'Avent est l'occasion pour nous de laisser Jésus éclairer nos recoins sombres et de laisser ôter ce qui est nocif pour nous-mêmes mais bien souvent nocif pour celles et ceux qui sont autour de nous. C'est une période, nous dit Tish Warren, où nous sommes particulièrement attentifs à la façon dont Christ continue de venir, à la manière dont il se glisse dans les plus sombres recoins de l'humanité et de nos propres vies. Que cette période de l'Avent soit l'occasion de faire un travail d'introspection, afin que l'Avent ne soit pas juste une douce rêverie avec le vin chaud et la cannelle et on est heureux. Pas une douce rêverie quant à notre condition, je suis quand même une bonne personne. Et d'être dans un déni de la noirceur qui pourrit notre vie à l'intérieur et qui pourrit parfois celle des autres autour de nous. Nous avons besoin de laisser Jésus devenir notre sauveur afin que nous soyons prêts pour entrer dans sa royauté quand il sera définitivement roi. Et c'est mon deuxième point ce matin, une attente future, la venue du roi. On continue les versets 3 et 4. Il se présentera et les conduira avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu, et ils auront une habitation assurée, car sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. Force est de constater qu'on n'est pas encore dans cette paix-là. On n'est pas en train de vivre ça en ce moment. Il suffit juste d'allumer un petit peu les informations et les chaînes d'information en continu. Celle-ci, elle sera effective lors du retour de Jésus. Le commentaire que je citais tout à l'heure nous dit la chose suivante. « Puisqu'il ne règne pas actuellement sur la terre en tant que chef de toutes les nations, nous attendons avec impatience le moment où cette partie de sa mission sera accomplie, c'est-à-dire lorsqu'il reviendra une seconde fois. À l'origine, Michée a donné cette prophétie pour donner de l'espoir aux gens il y a des milliers d'années et elle continue à susciter la confiance dans les promesses de Dieu pour les gens d'aujourd'hui. Cette promesse, elle est pour nous aujourd'hui. On peut la serrer contre notre cœur, on peut la serrer dans nos pensées, on peut s'alimenter de ces promesses-là. Notre Dieu est fidèle. Notre texte nous parle d'un Dieu de force, d'un Dieu qui fait éclater sa grandeur, un Dieu qui sera reconnu par tous et qui fera cesser les guerres et établir la véritable paix. On lit ici entre les lignes un vocabulaire d'ordre militaire. On est loin là des émotions des marchés de Noël. On parle d'un vocabulaire de guerre qui dénote avec toute cette image et calme du moment, le calme des chaumières. Vous savez, où les gens chantent à l'intérieur des maisons avec un piano alors qu'il tombe de la neige dehors. On est loin de tout ça. Cette venue du roi victorieux est celle du message de l'Avent. T. Harrison Warren dirait encore la chose suivante. L'Avent est étrangement et résolument apocalyptique. L'apocalypse, ce n'est pas un gros mot, ce n'est pas ce qu'on voit dans les films, c'est la révélation. Le retour de Jésus, sa manifestation, la fin de la guerre, la fin de la souffrance, Jésus au milieu de son peuple. Un message apocalyptique davantage tourné vers une immense bataille cosmique qu'une course dans la neige sur un traîneau tiré par un cheval ou des chiens de traîneau, peut-être pour notre imaginaire à nous. Si la venue de Jésus, elle rejoint nos problématiques personnelles, mes amis, elle les dépasse. C'est ce que ce passage est en train de nous enseigner. Par son retour, Jésus va instaurer pour son peuple la paix. Et dans le verset 2, nous avons lu que la venue du Sauveur entraînerait un retour à Dieu de celles et ceux qui s'en sont éloignés, et un retour vers le peuple hébreu. L'expression « c'est lui qui ramènera la paix » signifie littéralement « c'est lui qui sera notre paix ». C'est lui qui sera notre paix. Et cette expression, elle fait écho à ce que Paul dira en Éphésiens 2,14. « Car c'est lui notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation et l'inimitié. La venue de Christ sur terre et sa mort sur la croix a permis de faire sauter la séparation entre les Juifs et les non-Juifs, entre le reste fidèle d'Israël et les croyants d'origine païenne, et de faire de ces deux peuples un seul peuple unique de Dieu avec qui nous régnerons ensemble pour l'éternité. Voilà le message de paix que Dieu fait. Voici ce que nous allons expérimenter en Christ. La paix et la sécurité de tout mal, de toute souffrance, toutes ces choses-là auront disparu lorsque Christ aura installé son règne éternel. C'est une bonne nouvelle, mes amis, c'est la promesse de l'Avent. Jésus ne vient plus comme un nourrisson vulnérable dans une crèche, mais il vient comme un roi puissant, un roi conquérant, un juge miséricordieux et juste, qui soumettra le péché et la mort, donnant naissance à un monde nouveau. On lit dans Apocalypse 22, au verset 2, « Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve se trouve l'arbre de vie qui produit 12 récoltes et donne son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. » Servent à la guérison des nations. Voici le programme de Dieu, tout réunir sous un seul chef. Réunir ce que tout oppose en une réconciliation. Toutes les nations guéries en lui. Nous attendons donc avec l'Israël du passé la venue du Christ dans le présent et son retour ultime dans le futur. Voici ce que l'Avent enseigne. Cette perspective du message de l'Avent, mes amis, doit nous conduire à nous décentrer nous-mêmes pour considérer le plan de Dieu dans son ensemble. T. Harrison dira, l'Avent est une façon de pratiquer une attente nourrie de foi et d'espérance. C'est une façon de commencer l'année en accordant la priorité non à nos propres plans, mais au projet que Dieu a formé pour nous, à l'avenir qu'il a écrit pour l'humanité et sa création. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans le calendrier liturgique du christianisme, en fait, la période de l'Avent, c'était là où l'année commençait pour les croyants. C'était une année où, un petit peu comme on fait au 1er janvier lorsqu'on prend des résolutions, c'était la résolution de dire « je vais un peu me décentrer de moi-même pour chercher ce que Dieu veut pour son grand plan, pour l'humanité. Se décentrer de mes problèmes pour dire « mais qu'est-ce que Dieu attend de moi dans son grand ouvrage ?» C'est un temps de réflexion pour dire « ok Seigneur, peut-être que l'année dernière, il y a des choses où je t'ai délaissé, des choses où je t'ai abandonné. Et j'ai besoin de toi, j'ai besoin de revenir à l'essentiel. » Que cette période de l'Avent soit un temps de réflexion, mes amis, pour revenir à l'essentiel. Dans ce grand plan de Dieu qui dépasse nos vies personnelles, Dieu a décidé d'œuvrer en nous et par nous. Et ça nous amène au troisième point de l'Avent. Une attente présente la venue de Christ en nous. On va terminer ce passage et puis je vais inviter l'équipe à se rapprocher. avec ce que l'apôtre va décrire de la période d'entre-deux dans laquelle nous sommes, celle entre la première venue de Jésus et la deuxième. On lit ça dans Romains 8, versets 18 à 23. Il dit « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec une espérance. Cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de nos corps. Mes amis, Paul n'est pas dans le déni de ce qu'on peut vivre et traverser en tant que croyant. Il n'est pas dans le déni de la réalité de nos souffrances. Mais il nous invite à espérer dans la période de gloire qui s'en vient. Même si notre monde souffre, il aspire à une chose, la révélation des fils de Dieu. Qui sont les fils de Dieu dans cette salle ce matin ? Attend la révélation des fils de Dieu, c'est-à-dire de chacun d'entre nous. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et dire « tu as un rôle à jouer dans le grand plan de Dieu ce matin ?» Est-ce que tu peux le dire à ton voisin ? Peut-être on n'y croit pas, peut-être on n'y croit plus. Nous avons un rôle à jouer dans le plan de Dieu. Un rôle pour soulager les blessures d'un monde en souffrance. Un appel à être des artisans de paix, à être des communicateurs de la paix que seul Jésus peut donner. Des communicateurs de paix là où les gens se font la guerre. C'est le rôle de l'Église, d'être un pont entre les ennemis, de chercher à entendre la souffrance qui est là, dans chacune des parties parfois, mais d'être des ponts pour communiquer la paix que Jésus veut donner en ce Noël. Jésus nous a acquis une paix surnaturelle, une paix qui dépasse les circonstances, qui dépasse les moments parfois si difficiles qu'on peut traverser, une paix qui dépasse les relations brisées. Christ nous a donné, mes amis, les moyens de vivre, on l'a lu dans ce texte, les prémices. C'est-à-dire les prémices, c'est les premiers fruits. Un avant-goût du ciel est possible avec le Saint-Esprit ce matin. Un avant-goût du ciel est possible en toi pour faire la différence dans celles et ceux qui t'entourent. Je crois à un Dieu qui veut remplir de son esprit encore aujourd'hui. Un Dieu qui n'en a pas fini de communiquer sa grâce au travers de ses témoins que nous sommes. Un Dieu qui veut se déverser dans un monde en souffrance. Un monde qui crie, qui vit les douleurs de l'enfantement. Notre Dieu veut le faire encore aujourd'hui ici à Strasbourg, en Alsace et plus largement sur notre nation. Nous avons accès au Saint-Esprit et cet Esprit passe par rechercher la paix dans tout ce qui dépend de nous. On ne peut pas faire la paix pour quelqu'un d'autre, mais tant que ça dépend de moi, Dieu veut me challenger par son Esprit à aspirer à la paix, à ne pas envenimer les situations, mais à chercher à transmettre la paix. Dernière citation, cette paix doit maintenant se vivre au sein de la communauté chrétienne. Ce n'est là qu'un début de l'accomplissement. L'accomplissement sera total sur la nouvelle terre. La vision de la nouvelle Jérusalem dans l'Apocalypse rappelle en effet la prophétie de Michée. Dans les faits, cependant, ce résultat est l'aboutissement de tout un processus qui débute à la croix où Christ a rempli les conditions juridiques nécessaires à l'établissement de la paix, se poursuit tout au long de l'histoire de l'Église, où les croyants de diverses origines doivent apprendre à vivre dans la paix et s'y efforcer pour parvenir ensuite à son achèvement au retour de Christ. Rechercher la paix, mes amis, c'est se laisser interpeller par le Saint-Esprit encore ce matin. Se laisser parfois reprendre par le Saint-Esprit. Mes amis, si ça fait des années que le Saint-Esprit t'a pas repris, pose-toi les bonnes questions. Le Saint-Esprit, il est là pour nous challenger, non pas pour nous taper sur les doigts, mais parce qu'il veut nous voir grandir et nous relever. Celui qui va chercher à t'enfoncer, c'est Satan. Mais l'Esprit de Christ, cet Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, veut t'aider encore à grandir et à prendre de la vigueur ce matin, en te laissant interpeller par le travail qu'il veut faire. en le laissant encore conduire et diriger nos vies ce matin. Nous qui sommes incapables de faire le bien par nous-mêmes. Le Saint-Esprit est le seul qui peut faire tomber les barrières de la haine. Et il veut le faire avec toi. Il veut le faire avec moi. Vivre l'avant, mes amis, c'est une recherche de l'esprit au quotidien pour manifester le cœur et les valeurs du royaume. Je m'étais trompé, voici la dernière citation. Pendant l'avant, nous attendons la venue de Christ non seulement dans l'incarnation, mais aussi au quotidien. Jésus est venu à nous par son incarnation, mais son œuvre se poursuit en nous, à travers nous et autour de nous. Est-ce qu'il y a une église qui a envie de voir l'œuvre de Dieu se manifester à travers soi ce matin ? Si c'est ton cas, je t'invite simplement à te mettre debout à ta place comme un signe au ciel, alors qu'on va reprendre un chant où on veut dire « Seigneur, sers-toi de moi pour cette année liturgique qui démarre, qui redémarre. Peut-être je suis découragé, peut-être je suis fatigué, j'avais envie d'abandonner ce matin, mais je sens ton esprit qui est là ce matin et qui veut raviver un feu, qui veut raviver une flamme sur son église. Seigneur, on veut s'approcher de toi avec foi ce matin. On veut s'emparer de cette période de l'avant pour laisser ton Saint-Esprit encore nous travailler, pour me travailler. Seigneur, cette année qui va redémarrer, Père, je la veux sous ton signe, avec toi, entre tes mains, conduit par toi, dirigé par ton esprit. Je veux être encore tes pieds et tes mains en action dans un monde en souffrance. Je te prie, Saint-Esprit de Dieu, de passer encore au milieu de nous ce matin pour venir nous challenger encore comme tu veux le faire. Oui, Seigneur, tu veux panser encore des blessures et tu veux le faire par nous ce matin. Je te prie, Seigneur, que tout mensonge de Satan qui est en train de dire à quelqu'un qu'il est disqualifié puisse être chassé maintenant au nom de Jésus. Que ton esprit de paix se manifeste dans nos cœurs et dans nos corps au nom puissant de Jésus. Viens et souffle sur nous, Seigneur. On veut se réjouir à la venue du Sauveur du passé, s'attendre au Sauveur dans le futur, mais vive la réalité du Sauveur présent en nous par l'Esprit ce matin. Manifeste ta grâce encore sur nous, Père éternel. Sers-toi de nous, Jésus. Nous voulons être acteurs dès à présent de ce que tu as prévu de faire. Nous voulons nous être intégrés à ton plan, Père éternel. C'est dans ton nom puissant, Jésus, que j'ai prié. Amen. Pas terminer un message comme celui-ci sans prier pour la paix. Il y a des nations qui s'agitent. Il y a des combats qui prennent place dans notre monde et notre monde a besoin de la révélation du Sauveur Égée. On va demander à Michel de prier pour tout ce qui prend place au niveau des guerres dans notre monde. Parce qu'en tant qu'Église, on veut prier pour le monde dans lequel Dieu nous a placés. Parce que notre bonheur dépend du sien et on est invité à rechercher la paix. Alors que, avec Michel, nous puissions être cette Église qui prie pour notre monde en souffrance.
Voulons te remercier pour le message de Raymond Pierre ce matin. Et c'est vrai que nous avons un rôle à jouer, chacun pour notre part, mais nous avons aussi un rôle collectif en tant qu'Église de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, pour toutes les nations et les peuples qui se déchirent et qui s'entretuent. Ce matin, nous prions pour le Burkina Faso, prions pour la Somalie, prions pour le Soudan, pour la Birmanie, pour l'Ukraine, la Russie, pour Israël, pour Gaza, les Palestiniens, pour le Liban. Pensons au Nigeria, au Yémen, à la Syrie avec Alep, la RDC. Ô Seigneur, aie pitié. Pensez à ce chant de Francis Cabrel qui nous dit « Dieu qui est assis sur le rebord du monde et qui pleure de le voir tel qu'il est. » C'est vrai que ça nous fait souffrir et on pleure. Mais en même temps, s'accroche à tes promesses et à ta parole ce matin. Nous ne sommes pas sans espérance. Merci parce que tu es sur le trône. Et nous crions à toi, Seigneur, pour que la paix vienne. Viens, Seigneur Jésus. Prions pour toutes les victimes, pour les familles déplacées, les femmes, les enfants. Prions pour les migrants, prions pour les réfugiés. Nous prions, Seigneur, pour les populations marquées, traumatisées, pour les prisonniers, les blessés, les otages. Prions pour les dirigeants. Ô Seigneur, nous prions pour les organisations qui viennent en aide. Fais grâce à notre monde. Le seul qui peut apporter une paix réelle et durable, c'est toi, Seigneur Jésus. Et tu touches les cœurs qui veulent bien se laisser toucher. Ô Seigneur notre Dieu, merci pour ce message de paix ce matin. Et avec la chorale des anges, nous voulons dire « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Amen.
Amen. Merci beaucoup, Michel. Merci. Merci, Seigneur. Alors, on va vivre maintenant un autre aspect de la célébration. Mais qu'est-ce qu'on peut vivre des temps forts? On voit même pas le temps passer. On prie pour les nations, on prend soin de notre âme, on élève le nom de Jésus. C'est vraiment bon ce qu'on peut vivre ensemble. Dans un instant, nous allons, comme vous l'avez dit, ouvrir le marché de Noël. Nous voudrions aussi dire peut-être à quelqu'un ou une famille qui ce matin a été interpellée par le message d'une manière ou d'une autre que nous avons un espace qui s'appelle Écoute et prière qui va s'ouvrir sur ma gauche, votre droite. C'est l'allée qui est là. Il y aura des personnes avec un badge Écoute et prière qui seront à votre écoute pour prier, pour être avec vous dans ces temps de l'Avent. Et c'est ce qu'on veut faire. Alors n'hésitez pas, n'ayez aucune crainte avec ça. Des personnes vraiment avec bienveillance seront là pour vous, avec vous, pour prier pour vous. Je voudrais remercier aussi de manière particulière Marie-Noël et plein d'autres bénévoles qui ont mis en place toute la décoration de l'Avent que vous voyez. Ce sont des bénévoles qui aiment l'Église et qui avaient envie de marquer ce coup-là pour cette série qu'on est en train de vivre ensemble. Ça fait partie de ce qu'on veut laisser sur le cœur. Alors, si elle nous entend ce matin, on veut lui dire un grand, grand, grand merci aussi. N'oubliez pas, on vous donne rendez-vous ici dans la grande salle. Vous avez déjà un premier stand, Aiguilles Solidaires. Dans le hall, vous avez la billetterie. Vous passez d'abord à la billetterie et ensuite vous allez dans les stands. Et l'écoute et prière, c'est le stand de l'âme, le stand du cœur. Il est ouvert, c'est gratuit, c'est pour vous. Que Dieu bénisse chacune et chacun d'entre vous. Bon dimanche à chacun.